instructions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
Tune in to CKUT 90.3 FM, Tuesdays, 3 p.m. to 5 p.m. for a special Black History Month edition of the Montreal Sessions. The month kicks off on February 1st with the best in reggae and soca with your hosts, Production Sounds and Soca Head. Week 2, February 8th, Wizzy Moonchaser, host of The Morning Detour, broadcast live from DG Kicks, a sneaker store in NDG. The final 2 weeks, 15th and 22nd, are hosted by Stephen Ziplocks Hennessy, educator, creator,
and part of the Ill Groove Garden team. Don't miss it.
Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez InfoSocial 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
L'émission Café sur les ondes de CKUT 90.3. Vous êtes avec Marie-Pierre et Anthony.
Allô tout le monde!
Salut! Alors aujourd'hui, on vous a préparé une émission littérature, balado, avec évidemment un peu de musique à travers tout ça. On va commencer par vous parler de Daphné B, de son balado Choses sérieuses et de son recueil de poésie Beautiful, son premier recueil. Ensuite, on s'intéresse à une autre poète qui a aussi produit un balado, c'est Camille Paris-Poirier et son recueil Dis merci plutôt, et sa balado Quelqu'une d'immortelle. Et on terminera avec la bande dessinée White Horse de Samuel Quentin, l'intégrale.
Bien dit.
Et Pourquoi Bologne d'Alain Farah. Mais pour vous faire patienter, on vous présente une petite chanson. 216 de l'artiste Brad Barr. Vous le connaissez peut-être pour son groupe Les Brothers. Cet album s'appelle The Winter Session. C'est tout approprié pour cette neige à l'extérieur qui est sortie le 21 janvier.
Ah, il annonce la pluie. Je sais pas si on va en avoir vendredi.
Bon, ben, une dernière petite session hivernale. Peut-être qu'au moment où vous nous écoutez, c'est déjà la fin de l'hiver. C'est un album instrumental, vraiment tout en guitare, là, qui est au centre de son travail, donc délicate, bien travaillée. On sent que c'est un guitariste qui maîtrise son instrument, mais aussi différentes ambiances. On sent notamment l'influence là, du blues africain.
Blues du désert, là.
Exact. Je trouve que c'est un album, personnellement, là, qui fonctionne super bien pour travailler en même temps. Il est comme assez divertissant pour ne pas se faire oublier, mais il me permet vraiment de me concentrer.
Donc, ouais, c'est pas juste un album meuble, mais presque.
Il y a les qualités d'une bonne musique instrumentale.
Oui, c'est ça. Bref, je l'ai écouté seulement en tant qu'album, mais je l'ai aussi mis quand j'avais un souper chez moi.
Oui.
Tout est possible.
Oui, oui. On vous conseille. Donc, on écoute ça. Ça s'appelle 216 de Brad Barr. Thank you. Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission Café sur les ondes de CKUT 90.3. On est rendu à une petite chronique poésie et balado. La première poète dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Daphné B. Elle est aussi connue pour son travail de traductrice. Elle est cofondatrice de la plateforme féministe Féimicile. On la connaît pour son recueil Delete, paru en 2007 chez Loi de Cravant. Et plus récemment, son essai personnel maquillé que j'ai beaucoup aimé, publié en 2020 chez Le Marchand de Feuilles. Dans cet essai-là, elle explore sa relation au maquillage, à Internet, au capitalisme et à la culture populaire, puis les liens qui unissent tout ça, toutes ces dimensions-là de notre époque. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de son balado qui s'appelle « Choses sérieuses » et aussi de son premier recueil de poésie qui se nomme « Beautiful ». Donc, qu'est-ce que c'est « Choses sérieuses » En fait, le titre est lui-même un jeu, puisqu'elle s'intéresse à certains éléments de la culture populaire, un peu dans la même lignée que son essai « Maquillé », et aussi à la culture du web. Mais en appliquant en fait à ces éléments de culture populaire comme les chandelles parfumées ou même les sacs à main, elle leur applique un angle plus économique, social et même féministe pour voir en fait comment ces objets-là et notre relation à ces objets-là reflètent finalement notre époque. Pour l'instant, le balado compte seulement deux épisodes, un sur les chandelles parfumées justement et un sur qui s'intitule « Crypto sacoche ».
Puis là, Marie, tu parles d'objets de la culture populaire, sauf que un des sujets de la deuxième émission, c'était des objets, mais pas physiques, virtuels, des NFT. Je dois t'avouer que j'avais aucune idée c'était quoi avant le balado, puis je n'ai vraiment beaucoup appris. Raconte-nous, c'est quoi des NFT?
Ah, c'est difficile, en fait, de résumer ce qui se dit dans ce balado-là sur les NFT. Je trouve que Daphné B a fait un super travail de vulgarisation, justement, mais je vais essayer de m'y prêter au jeu. Donc, NFT, c'est l'acronyme qui désigne Non-Fungible Token, donc jeton non-fungible. En fait, ce sont des jetons, donc comme des produits à la limite, même des œuvres, par exemple, qui peuvent être achetées, mais ce sont des œuvres numériques dont la valeur est uniquement déterminée finalement par le propriétaire. Et comment Daphné B en parle, en fait, ce serait simplement un moyen de faire partie d'une forme de gagne, puisque le jeton signale une appartenance, comme un genre de club. Et en fait, elle fait le parallèle avec la notion de boys club. En fait, hein, ce sont souvent ces lieux-là, les gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, par exemple, ou à ces phénomènes-là d'Internet, ce serait des lieux, en fait, où beaucoup d'hommes, un espace qui est occupé par beaucoup d'hommes, mais en plus, qui reproduisent des systèmes d'oppression.
Les mêmes rapports de force qu'il y a dans la réalité, dans la rue. Là. Ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'on entend souvent parler que le système monétaire, les finances, ça marche beaucoup avec la confiance, c'est qu'on a dans le papier ou qu'on a à la banque. Mais là, ce NFT-là, qui est vraiment juste du virtuel, qui est vraiment, t'achètes une image, t'achètes même un concept ou... Ça montre encore plus clairement l'importance de la confiance, parce qu'il n'y a plus de matérialité, il n'y a rien, il y a juste de la valeur virtuelle que les gens se donnent pour une image ou une association.
Oui, mais ça, le fait que ce soit autour d'objets immatériels, justement, c'est comme si ce système-là devenait tellement dématérialisé, encore plus dématérialisé que l'argent en papier, par exemple, ou même que la carte bancaire. Le fait que ce soit tellement dématérialisé,
hein, oui,
je vais
dit.
Y arriver, ça met en évidence, en fait, tous les rapports de pouvoir, les rapports de confiance qui existent. Fait que c'est comme si ça exhibait un peu le squelette de notre système, même... économiques ou des transactions qui se produisent là, sur Internet.
Ouais, puis je pense que c'est un des bons côtés du balado, c'est que ça dévoile, ça montre tellement clairement tous les mécanismes, les interrelations qu'il y a derrière juste ce petit objet-là virtuel. Puis je pense que Daphné B a bien joué ce rôle-là. C'est vraiment bien.
Puis il y a aussi une notion que moi j'ai apprise en fait en lisant... En écoutant plutôt son balado, en fait, c'était la notion de lean-in féminisme. Avais-tu déjà entendu parler de ça?
Non, dans le balado tantôt.
le lean-in féminisme, c'est un peu l'idée de, en fait, jouer les règles du jeu, de par exemple, être la girl boss, c'est-à-dire de reprendre les mêmes mécanismes que son patron oppressant, son patron dominant.
Si, mettons, les hommes sont devenus PDG, c'est qu'ils ont utilisé leur pouvoir, puis qu'ils ont imposé leur pouvoir, puis que là, les femmes devraient faire la même chose, prendre la place de la même manière.
C'est ça. Donc, ce féminisme-là, de qui vient d'un livre, en fait, qui s'appelle Lean In de Sheryl Sandberg, ben, il a été beaucoup critiqué parce qu'en fait, il y en a qui se disent, ben, c'est pas du réel féminisme parce que, ben, c'est juste une question de reprendre, en fait, des systèmes oppressifs et de pas les critiquer ou de pas essayer de changer, justement, ces règles-là qu'on est obligé de jouer, donc, être le requin.
C'est une grosse question. Tu sais, comment gagner contre le puissant sans la puissance?
Ouais.
C'est pas gagné d'avance.
Exact. Puis dans son balado, chose sérieuse, Daphné B, elle critique un peu le fait qu'il y ait justement, on revient aux NFT, des NFT qui sont présentés comme girly, comme accessibles à une population féminine. Donc, hein, comment rendre, par exemple...
Bestie, que ça s'appelait.
Oui, c'est exactement. Et elle, en fait, elle critique le discours comme quoi ce serait un moyen de se réapproprier l'espace masculin. Elle, ce qu'elle voit plutôt, c'est une forme de lean-in féminisme, fait que juste une reprise encore des mêmes systèmes d'oppression.
Ouais, ça terminait son balado. Je trouvais que ça terminait bien. Ça posait des bonnes questions.
Ouais, c'est vraiment en fait un balado qui fait réfléchir, mais qui réussit en même temps à faire un bon travail, comme je disais, de vulgarisation. Ça rend ces éléments-là qui sont quand même complexes là, puis assez nouveaux dans notre société. Ça le rend tout à fait accessible. Ouais. Moi, je trouve.
Elle a bien travaillé pour nous, pour bien comprendre. Marie, comment qu'on fait le lien avec sa poésie maintenant?
Ben, dans les deux cas, en fait, le patriarcat, on le retrouve aussi, en fait, cette critique du patriarcat ou des oppressions, des relations, disons, hommes-femmes, là, c'est sûr que c'est plus complexe que ça, ben, se retrouve, mais d'une façon un peu plus intime dans son recueil de poésie, son premier recueil qui s'appelle « Beautiful ». Veux-tu nous en parler un peu plus?
Ben, oui. Je dois avouer que je suis tombé sur ce recueil-là parce que l'écrou fermé l'année passée. Donc là, ils vendaient tous leurs recueils. Donc, je n'ai acheté vraiment beaucoup, dont celui de Beautiful. Donc, je lisais ça avant de me coucher et j'ai vraiment aimé sa plume, les quelques lignes de chaque poème, sa manière directe de parler du désir de plaire. De se faire belle, de l'attente de l'être aimé. Puis même, j'ai été beaucoup touché par la tristesse de la prise de conscience qu'on est en train d'essayer de travailler à être désiré. Puis je trouvais que ça montrait bien ce problème-là, oui, de la tristesse de vouloir plaire puis peut-être pas réussir, mais de la tristesse de se voir travailler tellement fort pour plaire.
Ouais. Il y a comme un regard sur soi vraiment acéré, je dirais, très critique, puis ça donne une forme de vide ou une forme de grande solitude, là, ce regard sur soi en train de vouloir plaire.
Mais au final, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a quelque chose de bien puis de fort à en prendre conscience, puis potentiellement mieux de l'écrire, de le mettre en mots, de le déposer sur un papier. On sent que ça lui fait du bien, puis même en tant que lecteur, ça me fait du bien de voir que l'écriture a cet effet-là sur elle.
Ouais, mais c'est peut-être ce qui émerge de plus positif, ou en fait de quelque chose de plus solide ou de plus constructif dans ce recueil-là. C'est comme la nécessité de s'écrire, de se faire soi. Je pourrais peut-être vous en lire un extrait qui...
On se gâte.
Ouais, je trouve que ça reflète vraiment bien le propos puis le style aussi de ce recueil-là. Le soleil dit bonjour au rideau. Ma laideur déborde du lit. Tu t'es fait avoir, mais au moins, j'écris.
Oh wow, on termine ça là-dessus.
Je pense qu'on peut terminer là-dessus, hein, tout est dit.
Sur ce, on vous conseille Daphné B. D'abord, son balado « Choses sérieuses », sinon ses recueils de poésie comme « Beautiful » ou encore « L'essai maquillé ». Et avant d'aller voir Camille Paré-Poirier, on va y aller avec une chanson d'Ariane Roy qui a sorti le 11 février dernier, donc il y a quelques jours, son premier album « Medium Plaisir ». Une belle musique pop rafraîchissante qui amène le printemps tranquillement. J'aime beaucoup ses textes joueurs. Elle joue vraiment beaucoup avec la langue, puis on dirait qu'elle a toujours un sourire en coin quand elle chante. Donc, on va écouter « Quand je serai grande ».
La nuit dans toutes les villes. tranquille. J'aurais embouteillé la lumière de l'aube, le silence des cimetières, le cri des fauves. Je serais conquistador de bêtes féroces, j'aurais ouvert les portes du bestiaire.
Toujours avec Marie-Pierre et Anthony, on poursuit notre exploration tout en poésie et en balado. La deuxième poète, comédienne, performeuse et autrice dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Camille Paré-Poirier. On peut la décrire comme une féministe qui s'implique notamment au sein du mouvement Mes Poils. Et j'avais envie de vous parler de deux de ses créations qui m'ont marquée en 2021. En fait, c'est deux œuvres qui sont venues au monde de Camille Paré-Poirier. C'est comme ça que j'ai découvert.
Grosse année, hein?
Grosse année.
Année de pandémie.
Mais je trouve que c'est très prometteur pour l'avenir. Donc, le premier, c'est un recueil de poésie dont je voulais vous parler qui s'appelle Édition de ta mère. Non, ça, c'est l'éditeur. Qui s'appelle Dis merci, publié aussi en 2021. C'est son premier livre. Ça raconte une situation réelle qu'elle a vécue à 12 ans. On lui découvre une tumeur à la moelle épinière, puis elle doit subir donc une importante opération pour que cette tumeur-là soit retirée. Donc, les thématiques qu'on observe dans ce recueil-là, c'est entre autres le rapport au corps. Hein, c'est une période de l'année, 12 ans, là, où on commence, en fait, le corps change, la puberté arrive. C'est déjà un peu difficile. En fait, c'est souvent là on devient plus conscient de notre propre corps. Dans ce recueil-là, elle présente comment la maladie un peu perturbe sa relation à son propre corps, comment est-ce que ça peut déshumaniser un peu une maladie, on devient une espèce de
biais. Et l'hôpital,
c'est un environnement qui peut être déshumanisant. Je trouve que pour ça, c'est vraiment intéressant comment elle présente l'univers médical. Ça pourrait tomber dans la caricature si elle montrait seulement l'aspect négatif, comment c'est un milieu parfois froid, absurde.
Les néons.
Les fameux néons, la couleur.
Beige,
qui sont un peu insignifiantes, là, sans personnalité. Comment ça peut être aussi opaque, hein? On est comme un peu pris dans les mains des médecins, mais nous-mêmes, on sent parfois impuissants. Et elle se présente aussi comme un espèce de cas Les médecins l'observent un peu comme un cas mystérieux. Elle va rester de nombreux jours à l'hôpital sans qu'on sache.
Qu'est-ce qu'elle a?
Ouais, il y a à peu près un mois d'attente, en fait, où elle se pose la question, et les gens se posent la question. Il y a une scène incroyable où il y a à peu près 4-5 médecins qui l'observent avec un regard intéressé, là. Intéressant.
Qui la touche avec un doigt, là.
Exactement. Il y a une espèce de déshumanisation dans ce monde-là, mais elle va quand même mettre en scène là, des personnages plus chaleureux, comme certains soignants autour d'elle là, qui vont l'accompagner là-dedans.
Ah, mais ça m'intéresse, parce qu'à 12 ans, tu commences à essayer d'être autonome, de vouloir être quelqu'un à part entière, puis là, c'est l'opposé qui arrive.
Ouais, exactement.
Elle perd l'autonomie, elle devient un objet. J'imagine que ses parents doivent être là aussi.
Exactement. Elle parle beaucoup de son rapport à sa mère, à ses deux parents en général, mais sa mère a vraiment une place importante et vraiment touchante dans ce recueil-là. Elle redevient comme une espèce d'enfant pour ses parents. Ils doivent prendre soin d'elle, dépendre d'eux d'une certaine façon pour le soin. Et en fait, cette œuvre-là critique aussi un peu le rapport du soignant, du soigné, comment on peut se sentir vulnérable dans ces situations-là. Anthony, tu avais un extrait que tu aimerais nous lire, justement, question de la mère de Camille Paris-Poirier.
Et surtout, peut-être, de la place Laurier, parce qu'en venant de Québec, je connais bien l'endroit.
Ah, toi oui, aussi, hein. Pas Laurier-Québec, hein?
Donc, j'y vais. Maman, t'as tenu la main jusqu'à la dernière seconde. Le médecin lui a dit de pas attendre dans la chambre, de s'occuper, de pas trop penser à toi. Alors, maman, en bonne élève, est allée magasiner. Elle se promène à Place Laurier et achète le premier iPod Nano, blanc. Elle pense pas à toi, le ventre couché sur la table d'opération, les vertèbres, entre les mains d'un horloger. On lui a dit 8 heures, ça va prendre 8 heures. Sortir le lapin, te démagnétiser pour mieux remettre ta colonne en ordre alphabétique. Les secondes humidifient sa nuque, coulent le long de ses aisselles, s'agglomère derrière ses genoux. Elle pense pas à toi. Ses dents sèchent dans sa bouche alors qu'elle traîne ses pieds dans les allées du Simons. Elle pense pas à toi. Elle achète des vêtements qui ont ta taille et des couleurs vivantes. Ouais, c'est bon. C'est donc bien bon.
c'est magnifique. Puis je sais pas si peut-être que vous avez déjà vécu ça, mais l'espèce d'attente est insupportable si on entend un diagnostic, le résultat de quelque chose, des nouvelles de quelqu'un.
Ouais, t'essaies de te divertir, mais c'est tellement là.
Ouais, exactement.
Elle pense pas à toi. OK, faut pas je pense à elle. Je vais acheter du linge pour oublier, mais non, c'est là quand même.
Exact. Puis on voit le style aussi super accessible, mais vraiment touchant en même temps. C'est des magnifiques images qu'elle crée, puis moi, ça m'a définitivement donné envie de lire plus de poésie, puis aussi de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve.
Ouais, j'aime beaucoup les poètes, les poétesses, les gens qui écrivent, qui sont capables de mettre Simons et le verbe agglomérer. Genre d'être capable de toucher à plusieurs types de langage, mais dans le même texte, je pense que ça demande beaucoup de doigté, puis c'est bien fait, c'est bien fait.
C'est vraiment réussi. Il y a vraiment aussi une parenté avec le balado qu'elle a créé, en fait, qui est sorti la même année, donc en 2021, qui s'appelle « Quelqu'une d'immortel ». C'est un documentaire poétique, hein, on sent la touche justement de la poète là-dedans, en 3 épisodes, et... Quelqu'une des mortels, en fait, ça se centre sur le personnage de sa grand-mère. Donc, Camille Paris-Poirier, elle a enregistré sa grand-mère entre 2016 et 2020 dans une espèce de vide où elle était elle-même entre deux contrats, hein, les comédiennes. Donc, fin de l'école, début des contrats, une espèce d'attente. Et elle passe beaucoup de temps avec sa grand-mère et a le réflexe de l'enregistrer. Mais elle enregistre, entre autres, pour garder une trace de sa grand-mère, parce que celle-ci commence tranquillement à perdre la mémoire. Donc, ce qu'on a dans son balado, Quelqu'une des mortels, c'est les conversations entre Camille et Pauline, sa grand-mère, mais qui s'entremêlent avec toutes les réflexions de Camille sur la démence, sur la mort, qu'elle sent de plus en plus imminente, l'âgisme, le soin, donc le rapport justement aux personnes aînées qu'on a dans la société, la façon dont on les traite.
Qu'on s'occupe d'eux ou pas, ou mal, ou pas assez.
Exactement.
Qui s'occupe des vieux aussi, c'est souvent ça.
Puis là, en plus, il y a une dimension historique un peu imprévue qui se produit pendant ces conversations-là, qui dit 2020, dit début de la pandémie. Mmh. Hein, on sait ce qui est arrivé aux gens dans des maisons de personnes âgées ou qui devenaient de plus en plus coupés, finalement, de l'extérieur, de leurs proches avec qui ils étaient habitués de communiquer.
On parlait de prison.
Exact. Et on le sent, en fait, dans ce documentaire-là, en fait, on sent l'impuissance de Camille à aider sa grand-mère, mais que là, les conversations doivent se produire un peu par téléphone, de façon plus distanciée, avec une personne qui déjà perd un peu le contact avec la réalité. Hein. C'était une personne qui pouvait un peu la... Camille, c'est la personne qui la gardait un peu présente au monde.
Mais c'est souvent la solitude. Il y a du monde qui vont avoir de la misère ou perdre des capacités de parler puis de communiquer, simplement parce qu'ils le font plus.
Exact.
Ils sont toujours tout seuls. Fait que c'est sûr que si tu pratiques pas quelque chose, t'es plus bon. Puis là, ça peut être seulement la parole puis l'écoute.
Exactement. Puis c'est vraiment touchant parce que c'est ça, on a toutes ces questions-là qui sont abordées, mais en même temps, une espèce de réalité crue, là, presque sans filtre, qui nous est rendue, puisqu'on a vraiment les archives, finalement, des conversations. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Puis il y a des thématiques similaires là, avec son recueil de poésie, Dis merci. Donc ça, c'était la balado Quelqu'une d'immortel. Je vous le conseille. Si vous vous sentez en état d'assister à la perte de mémoire de quelqu'un et à une situation quand même assez triste là, avec des enjeux comme la mort qui sont abordés.
On va peut-être rester dans la tristesse et la mort pour la chanson, Marie, ouais. La chanteuse Elena Delan a sorti une chanson le 8 février dernier. C'est une très belle chanson, simple, guitare, voix. C'est en l'honneur de sa maman qui est décédée du cancer cette année. En ce moment, Elena est en tournée aux États-Unis, un peu partout dans le monde pour son album Someone New, mais elle a fait cette petite chanson-là, guitare-voix, qui est vraiment, vraiment émouvante. On va l'écouter.
The sun has heard me warm, the water when it crashes on the sand. Last. take more of this moment, trade in some of my past. You swim. You swim.
Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Et vous êtes de retour à l'émission Café à CKUT 90.3. J'espère que vous allez bien, parce que moi et Marie, je pense que ça va bien.
Ça va très bien.
Ça va toujours bien. Surtout que je vais vous parler de la BD White Horse. En fait, l'intégrale du BDiste Samuel Quentin. Donc, l'intégrale est sortie en avril 2021, mais la première partie en 2015 et la deuxième partie en 2017. Donc, c'est la première fois qu'on peut lire tout d'un bout. Je ne l'avais pas lu, et là, quand je suis allé au Salon du Livre, je me suis gâté. J'ai lu ça durant Noël, j'ai ri, j'ai adoré, puis là, j'avais le goût de vous le conseiller. Donc, cette BD-là a gagné le grand prix, le meilleur album de l'année au BD Lys. Lys comme dans Lys, le Québec, Lys. Donc, c'était vraiment la meilleure BD du Québec quand c'est sorti. Sinon, il est connu aussi pour les phobies des moments seuls. Ou encore mieux, Ville Misérable, que je vous conseille. Ville Misérable, c'est hilarant. C'est sa première vraie BD. Donc, bref, en mars 2021, la BD est aussi adaptée au théâtre. Mais confinement oblige, elle fut seulement web-diffusée au théâtre du CEP. Donc, c'est quoi ça, White Horse? C'est une saga comique, épique. Très, très cinématographique, même que Samuel Quentin, c'est un scénariste et il gravite autour du cinéma, donc il pense beaucoup ses BD comme des films, puis ça paraît. Les dialogues sont très travaillés, souvent des personnages haïssables auxquels on réussit quand même à s'attacher malgré tout, malgré qu'ils sont désagréables puis qu'ils ont la réplique genre « pas possible ». C'est un univers souvent absurde, mais qui, comme chez Kafka, l'univers absurde nous rappelle que c'est peut-être la réalité elle-même qui est tout croche, comme les personnages sont tout croches.
Penses-tu qu'on s'attache aux personnages comme ça parce que, malgré qu'on le veuille ou non, ils nous ressemblent un peu par moment?
C'est sûr. Genre, j'ai dit beaucoup de répliques du personnage dans ma vie. J'ai été maladroit comme lui. J'ai été innocent comme lui. Vraiment niaiseux au premier niveau, mais... Qu'est-ce que tu veux? On est tous un peu de même, hein?
J'ai l'impression que ces personnages, entre autres aussi dans Ville et Misérable, ils incarnent des personnages comme s'ils rassemblaient un peu toutes les choses qu'on avait dites dans notre vie qu'on n'aimait pas, mais en un seul moment, un seul
personnage. Une page!
Ouais, ça crée une espèce de malaise d'humour noir ou jaune. Je sais pas de quelle couleur on rit, mais en tout cas, pas un rire franc, là.
C'est jamais franc.
Non, non.
Mais tu ris tout le long, puis là,
un peu rire absurde, définitivement. Il y a un petit inconfort, un petit regard.
Puis on les connaît, les personnages, mais on veut pas les connaître. Ah, c'est vraiment bon. Si vous connaissez pas Samuel Quentin, allez chercher une de ses BD, que ça soit White Horse, que ça soit Ville Misérable, ou même potentiellement des scénarios qu'il a fait. Allez sur Internet, vous allez trouver plein de choses.
Ben oui, d'ailleurs, récemment au festival Plein Écran, qui est un festival disponible gratuitement en ligne pendant une certaine durée, j'ai eu la chance de visionner le film Monsieur Cachemire, qui racontait là, l'histoire d'un banquier qui reçoit une visite d'un client qui l'embarque dans un projet, finalement. Il y a quelque chose de vraiment absurde dans ce court-métrage-là, je vous vole pas le punch, mais je reconnais beaucoup de traits de sa BD dans le côté épique et à la fois comique et un peu absurde qui est raconté. Donc, ça s'appelait Monsieur Cachemire et c'est Samuel Quentin qui signe le scénario.
Marie, j'ai goût de te lancer un défi.
Oui.
Tu sais, on n'est pas des acteurs. Est-ce que tu as le goût qu'on essaie de lire la BD? Je joue le rôle du personnage principal, Henri, puis toi, sa blonde.
OK, on se lance?
Ouais, fait que là, Henri est à la maison et là, sa blonde arrive avec de l'épicerie.
Henri, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures?
Non, ben non, là. Ça doit être... As-tu acheté des oignons? Y a-tu quelqu'un qui est en train de couper des oignons ici, tabarnak?
Ben voyons, on est tout seul, tu sais...
Non, c'est le vent, là. Il y a eu un coup de vent, puis j'ai broyé, puis j'avais une poussière, puis un cil dans l'œil, puis c'est ça, là. Tout va bien. Tata, regarde, tout va bien. Je jongle, toubidou, da, bidou, bidou, doudou. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Tout va bien.
T'es sûr? C'est rendu que tu pleures quasiment à chaque jour ces temps-ci.
Hey, je pleurais pas, je te dis, là. Va chier au pire. Puis à part de ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute si je pleure. Toutes les fois que j'ai pleuré dans ma vie, c'était parce que tu me laissais tout seul trop longtemps ou tu étais méchante et puis cruelle avec moi.
Bon.
Mais je te pardonne. Mais dis-moi tout. Allez, qu'est-ce qu'il voulait, là?
Bon, ben... C'est ça. C'était bien comme je pensais. Pour son projet de film dans le Nord, là, à Whitehorse, il n'y a vraiment rien de sûr encore. Il n'y a pas tout le financement encore, mais ça devrait pas être un problème.
Aïe, je pense qu'on était bon. C'était le fun.
Ouais, trouves-tu que ça saisit bien... l'atmosphère de la bande dessinée,
ouais,
puis... la personnalité du personnage principal,
ouais,
Henri.
Puis, moi, c'est le « va chier au pire », là. Mais je trouve ça confirme que c'est cinématographique. Il pense vraiment... Tu sais, on voit qu'on aurait pu jaser comme ça sans arrêt, là.
Ouais, puis même, ben là, vous le voyez pas, malheureusement, à la maison, mais même dans la facture des images, tu sais, on voit que les dialogues prennent beaucoup de place, là, dans les images... ça a l'air d'être... C'est même une bande dessinée en noir et blanc, hein, entièrement, si je me trompe pas. Ouais,
Quand j'ai fait mes petites recherches là, avant d'en parler, il disait que c'est ce qu'il a plus fait, qu'il a plus travaillé dans Whitehorse, c'est les dialogues, il a retravaillé, relu, puis les virgules, les majuscules. Puis ouais, bien joué. Donc, Whitehorse de Samuel Quentin aux éditions Pawpaw, on vous le conseille grandement. Gardez-vous.
Mais tant qu'à rester dans le cinématographique... on aurait envie de proposer comme prochaine pièce la chanson « Passe-pied » de Jean-Michel Blais, pardon. C'est paru sur son dernier album « Au Bad » qui est sorti le 4 février 2022. On le connaît surtout pour son travail solo au piano, Jean-Michel Blais. Mais là, il s'est gâté un orchestre de chambre. Ça peut même là faire penser avec les violons, un aspect un peu répétitif, mais qui augmente là de mesure en mesure au travail de Philip Glass. Donc, ça fait très, très musique de film. Donc, on écoute ça.
Et de retour encore à l'émission Café avec Anthony et Marie-Pierre. On va terminer notre émission littérature, poésie, balado avec Pourquoi Bologne? Pourquoi Bologne? C'est un roman d'Alain Farah, mais pourquoi Bologne, Marie-Pierre? Pourquoi je parle de ça?
Ben là, je pense qu'il faudrait que tu m'en rappelles. Là. Tu me rappelles pourquoi t'as envie d'en parler.
C'est sorti en 2013. Maison d'édition Cartani.
Hey, ça a presque 10 ans.
Ouais, je me souviens, c'était après la grève de 2012 que c'est sorti. Puis là, pourquoi Bologne maintenant? C'est que l'auteur, Alain Farah, vient de publier un troisième roman qui s'intitule « Mille secrets, mille dangers ». Et que le problème, c'est que j'avais déjà chez moi son ancien « Pourquoi Bologne ». Puis là, je me suis dit, il y a certains principes à suivre dans vie. Et celui de ne pas lire le nouveau roman d'un auteur lorsqu'on a déjà son ancien dans sa bibliothèque, qu'on n'a pas déjà lu, fait partie des règles de conduite que j'essaie de suivre.
La règle de la chronologie.
Ouais, ben surtout le livre dans la bibliothèque.
Ah.
Tu sais, ne pas acheter un livre d'un auteur que t'as déjà un livre que t'as pas lu.
C'est un peu comme se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin?
Puis là, exact, même... ouais, exact. Puis là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que je l'ai lu, fait que je vais avoir besoin de son nouveau livre. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas lu le nouveau livre d'Alain Farah, j'ai lu son ancien, qui est sorti en 2013. Pourquoi Bologne? C'est quoi? C'est un livre de genre science-fiction ancienne école. Un peu bon côté, prochain épisode de Hubert Aquin. Prochain épisode que les critiques littéraires à l'époque avaient dit que c'était le premier livre post-moderne du Québec. Je me souviens d'avoir lu ça, puis ça m'avait marqué.
C'est vrai qu'il y a quelque chose d'éclaté dans la structure de prochain épisode, puis aussi de Pourquoi Bologne, si je me rappelle.
Oui, oui, les univers s'entremêlent. Fiction, réalité, rêve, souvenir, histoire, historique, télévision, plein de niveaux s'entremêlent jusqu'à ce qu'on ne sait pas où qu'on est dans le temps, mais aussi dans les niveaux de réalité, si je peux dire.
Ouais.
Puis là, qu'est-ce qui est bien dans Pourquoi Bologne, c'est qu'il y a des petits liens avec le livre à venir, avec le livre qui vient de sortir, « Mille secrets, mille dangers ». Je vais vous lire un extrait qui me semble bien résumer autant l'ambiance que le style de l'auteur. Je me lance. « Je ne perds pas seulement la tête. Depuis quelques jours, j'ai des problèmes de vision, des migraines fulgurantes et des auras lumineuses s'interposent entre le réel et moi. J'ai vérifié, en changeant de pièce, ce n'est pas la télévision. » Au plus mal, je me suis demandé ce que ferait ma mère. En fouillant un long moment parmi ses affaires entreposées dans la cave de terre battue sous mon appartement, j'ai retrouvé son exemplaire de « Mille secrets, mille dangers ». Autodiagnostic, des scotomes dus au stress et à la paranoïa.
Super intéressant. On sent vraiment bien l'ambiance. Justement, un peu paranoïaque, hein, de « est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Est-ce que c'est l'extérieur? » qui est en train de me rendre débile.
Est-ce que c'est l'extérieur qui est fou?
Exactement.
Parce qu'en plus, dans l'histoire, il est question d'un moment où que McGill s'occupait des fous, puis qu'il y avait des expériences quand même problématiques côté moral
ouais.
qui se passaient. Fait que tout s'entremêle.
Ouais, puis même, il y a presque une prédiction de son livre à venir avec le titre, hein, Mes secrets, mes dangers.
Ouais, ouais. Mais là, ça me donne le goût de le lire. Fait que j'espère que je vous donne le goût de lire Pourquoi Bologne, mais moi, en tout cas, ça me donne le goût de lire son prochain livre. Mille secrets, mille dangers. Qui est en nomination au prix littéraire de Cégepierre en plus.
Exactement. On verra s'il l'emporte.
Donc, cher auditeur, auditrice, vous avez le choix. Soit vous y allez en 2013 avec Pourquoi Bologne, ou vous y allez en 2021 avec Mille secrets, mille dangers. À vous de choisir.
Pilule bleue, pilule rouge.
Ben, en parlant de bleu, c'est oui. tellement un bon lien. On avait le goût de vous présenter une chanson.
Oui, ben on vous présente la chanson Blue World justement. Donc Jesse McCormack a visiblement choisi la pilule bleue. c'est une chanson qui est sortie en fait comme j'ai oublié le mot. Comment qu'on appelle ça? Tu sais, une chanson qui sort avant l'album.
Ben un sample.
Oui, un simple.
On va le traduire direct.
Exact, de son album qui s'appelle Solo, qui est apparaître donc assez bientôt, dans environ un mois, le 8 avril 2022.
Il faut voir sa pochette.
Ah oui, c'est assez représentatif.
Allez voir la pochette de Solo de Jesse McCormack.
Moi, j'ai vraiment très très hâte à cet album-là. J'ai une grande fan de Jesse McCormack.
J'ai tellement écouté ses mini-albums Crush puis After the Glow, là. La guitare là-dedans, l'émotion, genre la passion de la voix, c'est vraiment bon.
Ouais, c'est aussi quelqu'un à voir en spectacle, un excellent musicien. Donc c'est aussi un réalisateur, on le connaît pour son travail sur plusieurs albums, mais là dans Blue World, la chanson qu'on va écouter, il se tourne un peu plus vers la pop, mais en gardant justement une forme de langueur accrocheuse.
Ben c'est comme ça qu'on termine avec Blue World. Merci Marie.
Et merci Anto.
À la semaine prochaine.
Sigur Rós, The Icelandic Sensation from Reykjavik, back in Montreal, June 10th at Place des Arts. Do not miss the internationally acclaimed Sigur Rós. Tickets on sale this Friday, February 25th at 10 a.m. at evenco.ca. Do not miss Sigur Rós live in concert.
Amigos, bienvenidos a nuestra emisión quincenal, escuchando América Latina, aquí en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina, eres tú.
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina somos nosotros.
Argentina,
Bolivia,
Brasil,
Chile,
Costa Rica,
Colombia,
Cuba,
Ecuador,
El Salvador,
Guatemala.
América.
Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay,
Perú,
República Dominicana,
Uruguay,
Venezuela.
América.
Aquellos ojos verdes.
de mirada serena.